L'Inde voisine était un pays de cocagne comparé au Bangladesh. Pour qui venait de Dhaka, Bombay évoquait New York et Calcutta la Nouvelle-Orléans. La misère y était cependant plus choquante à cause de l'hindouisme qui renforçait les exclusions. Au Bangladesh régnait alors un islam modéré, admirable d'égalitarisme. Nous étions les seuls êtres humains de la planète à aller à Calcutta, ville la plus proche de la frontière, pour chercher de la nourriture. Si peu qu'il y en eût dans cette ville infernale, cela nous paraissait l'abondance. Nous montâmes jusqu'à Darjeeling, dont la beauté nostalgique me renversa. À trop contempler l'Everest en buvant du thé, la tentation himalayenne l'emporta, nous partîmes au Népal pour une semaine. Un pays où l'on passait son temps à lever la tête jusqu'au ciel pour apercevoir des sommets d'une altitude invraisemblable, c'était pour moi. Mais à hauteur d'homme, c'était autre chose. Une visite m'y frappa plus violemment que tout ce que j'ai vu sur cette planète. Le temple de la déesse vivante. Celle-ci était une enfant que les brahmanes choisissaient à la naissance en fonction de 1000 critères astrologiques, karmiques, sociaux, etc. Le bébé accédait aussitôt au rang de divinité et, en tant que tel, était pour ainsi dire encastré dans la matière même du temple. La petite fille enchâssée dans un trône grandissait, somptueusement nourrie, fleurie et honorée par des prêtresses, sans apprendre à marcher. Les uniques mouvements auxquels elle avait droit consistaient à agiter des objets du culte. Hormis les vestales, personne n'était autorisé à lever les yeux sur elle. Sauf une fois par an, le jour de la procession, où la déesse vivante était portée sur un palanquin géant à travers la ville et où les foules venaient regarder, acclamer et prier la fillette pour qui c'était la seule occasion de voir le monde réel. Elle était alors abondamment photographiée. Le soir, elle réintégrait le temple dont les panneaux étaient refermés jusqu'à l'année suivante. Ce manège durait jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Le jour de son anniversaire, elle perdait son statut de divinité et était soudain priée d'aller se faire pendre ailleurs. On relâchait dans la nature une fillette obèse, incapable de se servir de ses jambes et dont la famille avait perdu le souvenir. Personne ne semblait se soucier du devenir de cette nouvelle humaine. À l'extérieur du temple étaient punaisées, à titre d'ex-voto, de nombreuses photos de l'actuelle déesse vivante à ses divers âges. Il était saisissant de voir, année après année, la mignonne enfantsonne se métamorphosait en une sorte de ver à soie bouffi de graisse. Il y avait aussi de vieux clichés des précédentes déesses vivantes. Effarantes théories de petites filles plus grosses les unes que les autres et qui, au-delà de 12 ans, n'existaient plus. On ne pouvait que se demander quelle partie de leur vie avait été la pire, avant ou après l'âge fatidique. J'avais 12 ans quand je vis le temple de la déesse vivante. C'est peu dire que j'en fus bouleversée. Heureusement, mon destin n'avait rien de commun avec celui de cette fillette népalaise, mais quelque chose en mon cœur la comprenait si bien. Bizarrement, dès ma prime conscience, j'avais toujours su que la croissance serait une décroissance et qu'il y aurait à cette perte perpétuelle des paliers atroces. Le temple de la déesse vivante me mit nez à nez avec une vérité qui était mienne depuis mon aube. C'était qu'à 12 ans, les petites filles étaient chassées.